VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
7h à Abidjan.
18h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. Attentat de Paris, le Premier ministre français Manuel Valls a souligné aujourd'hui que le nombre de personnes impliquées dans les attaques de vendredi dernier restait encore inconnu, évoquant l'hypothèse de complices en France et en Belgique. En dehors des 7 kamikazes tués vendredi sur les lieux des attentats, les enquêteurs traquent un suspect, Salah Abdeslam, qui serait le 8e homme ayant directement participé, enfin des 3 équipes ayant directement participé aux tueries et qui est visé par un mandat d'arrêt international. Les tout derniers détails sur l'enquête avec notre correspondant à Paris, Christian Mpanzou.
Les opérations de police se poursuivent évidemment en Belgique, dans la commune de Molenbeek, mais aussi à Paris, où une 3e voiture louée par Salah Abdeslam a été retrouvée ce matin dans le 18e arrondissement. Ce véhicule a été minutieusement fouillé en pleine rue par les policiers qui l'ont localisé, avant d'être emmené dans les locaux de la police scientifique pour subir des analyses plus poussées. Les personnes en charge de l'investigation nous ont également révélé que le groupe de djihadistes était en planque dans 2 endroits différents avant de commettre les attaques. Plusieurs chambres d'hôtel à Alfortville, en banlieue sud de Paris, et une maison à Bobigny, en banlieue nord. En Belgique, 2 individus qui auraient aidé Salah Abdeslam à quitter la région parisienne dans la nuit de vendredi à samedi ont été inculpés. 5 arrestations en rapport avec les attentats de vendredi ont eu lieu à la frontière entre la Belgique et l'Allemagne. Enfin, le commanditaire de ces attaques aurait été identifié, Abdelhamid Abaoud, belge de 28 ans, aujourd'hui en Syrie. D'ailleurs, les autorités n'excluent pas la possibilité que Salah Abdeslam soit en route en ce moment même pour la Syrie. Depuis Paris, Christian Mpanzou pour VOA Afrique.
Cap sur l'Afrique de l'Ouest maintenant, en Guinée, le dernier cas connu d'Ebola. Une petite fille de 3 semaines, dont la mère est décédée, a été officiellement déclarée guérie lundi. Plus de détails avec Jacques Aristide.
C'est du moins ce que rapporte l'AFP, citant l'Organisation mondiale de la santé et Médecins sans frontières. Le bébé, dont la mère âgée de 25 ans, a succombé au virus après l'avoir mis au monde le 27 octobre, était soigné au centre de traitement d'Ebola de MSF à Conakry. Prénommée Noubia, comme l'infirmière qui a aidé sa mère à accoucher, la petite fille ne présentait plus aucun signe négatif. Mais prudence tout de même, Laurence Assaï de MSF Guinée a indiqué que comme il s'agit du premier bébé contaminé à avoir guéri, elle continuerait à recevoir un soutien médical avant de retourner chez elle. La fin de l'épidémie pourra être déclarée si aucun nouveau cas n'est signalé dans 42 jours, c'est-à-dire vers la fin décembre.
Au Burkina Faso, la campagne pour la présidentielle du 29 novembre est dans sa 2e semaine. 14 candidats briguent la magistrature suprême dans cette première élection post-comparée. Pour le géographe burkinabé Drissa Diarra, le scrutin est très compétitif. 16 arguments au micro de Bagassi Koura.
Évidemment, tout le monde a sa chance parce que chacun des candidats croit effectivement à sa victoire. On constate cela déjà. Et l'autre avantage ici est que le gouvernement de la transition joue dans la mesure de sa possibilité la carte de la neutralité. Conséquence, dans cette présidentielle, les moyens de l'État ne peuvent être utilisés comme dans les temps passé en tant que tel. Donc cela remet du point de vue de l'utilisation des moyens de l'État, les véhicules, etc., les candidats sur un pied d'égalité. Conséquence, je peux dire que chaque candidat a sa chance du point de vue des moyens de base.
On voit qu'il y a 14 candidats, mais il y a seulement 2 femmes. Comment on peut expliquer cela?
C'est la réalité politique qui est comme ça dans notre environnement politique. Les femmes hésitent effectivement à rentrer dans la politique. Tout le monde veut que la femme s'engage effectivement sur le terrain politique pour s'affirmer, mais personne ne veut que sa propre femme s'engage.
Le géographe burkinabé Drissa Diarra au micro de Bagassi Koura.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Afrique centrale maintenant, au Rwanda, le Sénat, à l'instar de la chambre basse du pays, a adopté à son tour une modification de la Constitution qui permettrait au président Paul Kagame de se représenter pour un 3e mandat en 2017. Les précisions d'Idrissa Sédoudia.
Les jeux ne sont pas encore faits. La Chambre des députés doit encore réexaminer quelques articles mineurs amendés par les sénateurs avant que le texte de la nouvelle constitution ne soit soumis à référendum. Paul Kagame est l'homme fort du Rwanda depuis que sa rébellion du FPR a chassé du pouvoir en 1994 le régime extrémiste Hutu et mis fin au génocide de 1994. Pour le pouvoir, cette réforme constitutionnelle vient d'une initiative populaire. Et il n'en veut pour preuve que les quelques 3,7 millions de Rwandais qui ont signé des pétitions pour réclamer le maintien de M. Kagame au pouvoir. M. Kagame n'a pas affiché clairement ses intentions, mais a déjà affirmé à Idriss Fall de la Voix de l'Amérique pendant un de ses séjours à Kigali qu'il ne briguerait pas de troisième mandat. Dans la sous-région, les volontés affichées de certains dirigeants de se maintenir au pouvoir ont suscité des mouvements de contestation, notamment au Burundi voisin.
En RDC, les nouveaux chefs de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, investis aujourd'hui par le président Joseph Kabila à un peu plus d'un an de la présidentielle de 2016. C'est ce qui ressort d'une ordonnance du chef de l'État lue ce mardi à la télévision nationale. Corneille Nangara, Norbert Basengezi et Pierrette Mwenze ont été nommés respectivement au poste de président, vice-président et questeur de la CENI. Ils accèdent à leurs fonctions après la démission successive de leurs prédécesseurs. Depuis l'invalidation du calendrier électoral par la Cour constitutionnelle en septembre, l'incertitude règne sur la tenue de la présidentielle censée avoir lieu avant la fin novembre 2016. Par ailleurs, le nouveau représentant spécial de l'ONU en République démocratique du Congo est depuis hier à Kinshasa. Le point avec Eddie Isango.
Maman Sambo Sidiku succède à l'Allemand Martin Kobler, dont le mandat s'est achevé fin octobre. Ancien ministre des Affaires étrangères du Niger, M. Sidiku était à la tête de la mission de l'Union africaine en Somalie. Il a été nommé début octobre pour diriger la mission onusienne la plus importante au monde, avec près de 20 000 soldats et policiers. Il arrive en RDC alors que les relations avec Kinshasa sont tendues depuis plusieurs mois. Il y a eu des divergences sur la façon de lutter contre les groupes armés dans l'est du pays et des tensions politiques persistent autour de la tenue de la présidentielle censée avoir lieu en 2016. Dotée d'une brigade de quelques 3000 hommes, autorisée à recourir à la force, la MONUSCO a pour tâche de protéger les civils et de neutraliser la cinquantaine des milices dans l'est de la RDC.
La mission de l'ONU en RCA devrait être renforcée par 300 casques bleus sénégalais à l'approche des élections de décembre. Plus de détails avec Félix Yepassi Zembrou.
Ces renforts font partie d'une force de réaction rapide de la mission de l'ONU en Côte d'Ivoire. Ils seront redéployés pendant une période de 8 semaines et seront sur place dès que possible, a précisé le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, va demander le feu vert du Conseil. Celui-ci tenait lundi des consultations à huis clos sur la situation humanitaire et sécuritaire. L'Égypte devrait par ailleurs envoyer 750 soldats et la Mauritanie 140 policiers pour renforcer les 12 000 hommes de la MINUSCA. Ces renforts pourraient être sur place à temps pour une visite du pape François en Centrafrique les 29 et 30 novembre si elle est maintenue. Le premier tour du scrutin présidentiel et des législatives est prévu le 27 décembre et un référendum le 13 décembre. Un éventuel second tour est prévu le 31 janvier 2016.
On revient aux attentats de Paris et à leur retombée. Les États-Unis avaient promis d'accepter 10 000 réfugiés syriens d'ici octobre 2016 contre 1 800 seulement depuis 2011. Mais depuis les attaques sanglantes de vendredi en région parisienne, plusieurs États et beaucoup de leaders refusent d'accueillir les Syriens qui cherchent asile à l'étranger. Pourquoi, Idriss Fall?
Pour Greg Abbott, gouverneur du Texas, un réfugié syrien semble avoir participé aux attaques de Paris et il ne veut plus en accueillir dans son État. Phil Bryan, gouverneur du Mississippi, et Robert Bentley de l'Alabama dénoncent une politique à risque. La Louisiane, l'Arkansas, le Tennessee et l'Arizona ont pris des mesures similaires. Le Nebraska ordonne aux agences de placement des réfugiés de décliner les demandes. L'Illinois, l'Indiana et le Michigan ont suspendu l'accueil de réfugiés syriens en attendant des mesures de sécurité supplémentaires. Comme les États n'ont pas les moyens de s'opposer à des financements fédéraux, le gouverneur de Floride, Rick Scott, réclame au Congrès, dominé par les Républicains, de bloquer tout financement fédéral. Le républicain Paul Ryan, président de la Chambre, appelle à une pause dans l'accueil des réfugiés. Le président Barack Obama, depuis la Turquie, invite tout le monde à ne pas faire l'amalgame. entre la question des réfugiés et celle du terrorisme.
Et pour terminer, la Russie a finalement admis aujourd'hui que le crash de l'Airbus de la compagnie russe Metrojet dans le Sinaï égyptien qui avait fait 224 morts le 31 octobre était un attentat. Moscou promet de trouver et de punir les responsables. Merci de votre attention.
Au cœur de l'info sur VOA Afrique.